Chapitre 53. À la pâle lueur du crépuscule, Zed avait du mal à tenir debout pendant qu'il attendait devant la tente où Taïra venait d'entrer avec une petite caisse. Alors qu'elle déballait les artefacts, les préparant pour une inspection, des gardes non loin de là discutaient de leur chance d'avoir une tournée de bière avec le rata du soir. Avec son collier autour du cou, le vieil homme décharné, aux bras attachés dans le dos, ne les inquiétait pas beaucoup. Conscient qu'on ne lui prêtait aucune attention, Zed s'appuya discrètement contre la roue arrière d'un chariot. Il aurait tout donné pour qu'on le laisse s'allonger et dormir un peu. Il jeta un bref coup d'œil à Adi, qui lui sourit courageusement. Le chariot était plein d'objets volés dans la forteresse. Pour ce qu'en savait le vieux sorcier, il pouvait s'agir d'une cargaison d'artefacts destinés à amuser les enfants et à former les novices, ou, au contraire, d'une brassée de sorts susceptible d'assurer la victoire de Jagang en un clin d'œil. Zed n'avait même jamais vu certains objets rapportés par les pillards insensibles à la magie. Même pour lui, il existait des champs de force infranchissables. Et quand il était enfant, les vieux sorciers qu'il avait initiés n'étaient pas plus capables que lui de les franchir. Les pillards étrangers aux dons allaient et venaient à leur guise, se jouant de pièges datant de plusieurs milliers d'années. Toutes les certitudes de Zed étaient cues par-dessus tête. La chute de la forteresse marquait la fin d'une époque et la disparition définitive d'un mode de vie. Très bientôt, Zed lui-même s'effacerait, condamné à l'oubli au fond des poubelles de l'histoire. Jusque-là, les artefacts qu'il avait identifiés n'étaient pas en mesure d'aider Jagang à gagner la guerre. Les quelques objets qu'il n'avait pas reconnus et que Taïra avait à la hâte remis dans des caisses hermétiques pouvaient être terriblement dangereux. Zed aurait bien aimé qu'ils soient détruits avant qu'une sœur de l'obscurité en découvre le mode d'emploi. Relevant les yeux, il étudia un des soldats d'élite qui bavardait non loin de lui. Le type était un peu étrange. Pour commencer, il avait à l'oreille droite une entaille en forme de V qui rappelait la façon dont certains fermiers marquaient leurs cochons. Ensuite, s'il portait le même uniforme que ses camarades, ses bottes étaient différentes. Autre détail troublant, l'œil gauche du soldat s'ouvrait bien moins largement que le droit. L'étrange militaire s'éloigna avec quelques autres hommes, privant Zed de sa distraction. Mais des soldats et des sœurs passaient sans cesse devant lui. Bizarrement, l'aberration continuait. Très souvent, le sorcier croyait voir des fantômes de temps révolus ou simplement des gens qu'il connaissait. Quelle décadence pour un homme comme lui ! Avoir des hallucinations parce que son esprit partait en vrille à cause du manque de sommeil. Bon sang ! Une moitié des gardes arboraient des traits familiers. C'était insensé. Mais à force de les voir depuis des jours, il s'était peut-être habitué à eux. Une sœur avançait en direction du chariot. Celle-là aussi ressemblait à une connaissance de Zed, peut-être simplement parce qu'il l'avait croisée récemment. Ces derniers temps, il avait rencontré pas mal de ces femmes et rarement dans des circonstances agréables. Bien, il devait cesser de délirer. Un homme comme lui ne pouvait pas devenir cinglé comme ça. Une des petites filles gardées en otage, celle que surveillait un impressionnant colosse, regarda Zed et lui sourit. Une étrange réaction pour une gamine terrifiée dans un camp de l'armée de l'ordre. Mais la pauvre petite ne devait pas comprendre qu'elle était là pour subir la torture si le vieux sorcier cessait de collaborer. Zed détourna le regard de la longue chevelure blonde de cette adorable gamine qui ressemblait à... Non, il fallait qu'il arrête avec ça. C'était de la folie furieuse.
« Qu'ils entrent !»
cria Taïra à l'intérieur de la tente. Les quatre gardes passèrent aussitôt à l'action. Deux se saisirent d'Adi et les deux autres ceinturèrent Zed. Pour des costauds pareils, le sorcier était un poids-plume et il le portait plus qu'il l'escortait. Les pieds touchant à peine le sol, le vieil homme entra sous la tente et eut le souffle coupé quand les deux brutes l'assirent sur une chaise devant une inévitable table basse. Zed fit la grimace et ferma les yeux. « Si les soldats le tuaient maintenant, se dit-il, il n'aurait plus jamais besoin de les rouvrir. » L'ennui, c'était qu'ils enverraient sûrement sa tête à Richard. Le pauvre petit en ferait une maladie, c'était certain.
« Alors ?»
demanda Taïra. Zed ouvrit les yeux et regarda l'objet qui trônait sur la table. Il sursauta, pétrifié, mais parvint plus ou moins à dissimuler sa réaction. C'était un artefact très spécial. Un sort de coucher de soleil, enfermé dans une boîte à l'apparence anodine. Les sœurs ne devaient pas l'avoir ouverte, sinon, eh bien, ils n'auraient pas été assis là en ce moment. La petite boîte jaune vif avait l'apparence de la moitié supérieure d'un soleil très stylisé. Un demi-disque dont 6 rayons jaillissaient sur tout le périmètre. Une représentation du soleil couchant lorsqu'il sombrait à l'horizon. Les rayons étaient également jaunes, mais avec des lignes oranges, vertes et bleues sur leurs arêtes.
« Alors ?»
répéta Taïra.
« Eh bien ?»
La sœur consultait son livre et ne regardait pas la petite boîte jaune.
« De quoi s'agit-il ? Je n'en suis pas trop sûr. »
mentit Zed pour gagner du temps.
« Tu veux que je fasse venir des enfants ?»
grogna Taïra, de fort mauvaise humeur ce jour-là.
« Non, ça me revient. »
lança Zed, nonchalant.
« C'est une boîte à musique magique. Un sort joue un petit air quand on l'ouvre. »
Ce détail-là était vrai. Taïra étant toujours plongée dans son catalogue, Zed regarda brièvement Adi et vit qu'elle avait saisi qu'il se passait quelque chose. Il espéra que la sœur ne s'en apercevrait pas si facilement.
« Une boîte à musique, donc ?»
répéta la sœur, plus intéressée par le livre que par l'artefact en question.
« C'est ça, oui. Quand on l'ouvre, le sortilège produit une mélodie. »
Ruisselant de sueur, le cœur battant la chamade, Zed tenta d'empêcher sa voix de trembler.
« Essayez, et vous verrez. »
Taïra étudia un moment la boîte.
« C'est toi qui vas l'ouvrir, »
dit-elle.
« Et comment ferais-je avec les mains attachées dans le dos ?»« Utilise tes dents. »« Mes dents ?»
Du bout de sa plume, Taïra poussa la boîte plus près du sorcier.
« C'est ça, tes dents. »
Zed avait prévu les soupçons de la sœur et il jugea plus prudent de ne pas en rajouter en jouant trop la comédie. Il fit rouler sa langue dans sa bouche, tentant d'obtenir un peu de salive. Du sang aurait été encore mieux, mais si elle le voyait se mordre l'intérieur de la joue, Taïra ne serait pas dupe. Le sang était un catalyseur si commun. Zed se pencha en avant et tendit le cou vers la boîte. Placer les dents convenablement sur le couvercle n'était pas aisé dans cette position. S'en apercevant, Taïra poussa de nouveau la boîte. Exactement ce qu'il fallait à Zed. Serrant le couvercle entre ses dents, il leva le menton. Au début, toute la boîte vint avec, mais il secoua la tête et le couvercle consentit à se séparer du reste. S'il n'était pas ouvert par un voleur, un sort de coucher de soleil devait être activé par un sorcier qu'il reconnaissait. Trop vite pour que Taïra s'en aperçoive, Zed déposa une goutte de salive dans la boîte afin d'activer le sortilège. Le vieux sorcier se sentit euphorique quand la mélodie retentit. Le sortilège était toujours fonctionnel, et par la fente du rabat de la tente, on voyait que le soleil ne tarderait plus à se coucher. Zed se serait bien levé pour danser au rythme de la musique, et il aurait volontiers crié de joie. Même s'il ne lui restait plus longtemps à vivre, il vibrait de bonheur. L'épreuve était presque terminée. Dans très peu de temps, tous les artefacts volés seraient détruits et le vieil homme aurait quitté ce monde. Ses ennemis n'auraient rien obtenu de lui. Il allait mourir sans avoir trahi sa cause. Il déplorait que les familles prises en otage doivent périr avec lui, mais au moins, elles ne souffriraient plus. Adi aussi allait mourir. Cette idée lui serrait le cœur. Il détestait que sa très chère amie ait des malheurs.
« Très amusant !»
marmonna Taïra en reposant le couvercle sur la boîte. Aussitôt, la musique cessa. Mais ça n'avait aucune importance puisque le sortilège était activé. La mélodie était une confirmation et un signal indiquant qu'il fallait filer au plus vite. Zed n'en aurait pas l'occasion et il s'en fichait.
« Je vais la remettre à sa place, » dit Taïra en ramassant la boîte. « Pendant mon absence, les gardes t'amèneront la petite fille suivante sur la liste des tortionnaires. » « Regarde-la bien et pense à ce que ces hommes lui feront si tu cesses de coopérer. »«
Mais je...
Zed ne put pas finir sa phrase, car le Radahan lui envoya une vague de douleur qui descendit de sa nuque jusqu'à ses hanches. Arquant le dos, il hurla et manqua de perdre conscience. Quand son calvaire cessa, il s'affaissa sur sa chaise, la tête baissée, incapable de la relever.
« Venez avec moi, » dit Taïra au garde. « J'ai besoin d'aide. Le soldat qui s'occupe de la fillette pourra surveiller ces deux vieux fous. »
Des larmes aux yeux, le souffle encore court à cause de la douleur, Zed regarda le plafond de la tente. Des ombres dansèrent sur la toile quand la sœur et les quatre soldats écartèrent le rabat, laissant entrer la lumière du crépuscule. Puis le garde entra avec la fillette suivante. Zed ne baissa pas les yeux car il refusait de voir le visage d'une autre petite victime. Un peu remis du choc, il se redressa néanmoins sur sa chaise. Un garde d'élite en cuirasse, des bandes de cuir croisées sur la poitrine, avança vers le vieil homme avec la petite fille blonde dont il tenait la main. Baissant enfin les yeux, Zed reconnut la gamine qui lui avait souri. Il baissa les paupières, accablé à l'idée de ce qui attendait cette pauvre enfant qui lui rappelait tellement quelqu'un. Quand il rouvrit les yeux, la petite lui fit un clin d'œil. Zed emplissa le front de surprise. Souriante, la fillette releva assez sa robe imprimée pour que le sorcier puisse voir le couteau fixé à chacune de ses cuisses. Bon sang, que se passait-il? Se pouvait-il que...
Rachel?
Hasarda le vieux sorcier. Le sourire de la gamine s'élargit. Soufflé, Zed dévisagea le garde d'élite.
« Par les esprits du bien !»
souffla-t-il. C'était un garde frontière qu'il connaissait très bien.
« J'ai entendu dire que tu t'étais fourré dans les ennuis, » dit Chase.
Un instant, Zed crut qu'il continuait à avoir des hallucinations. Puis il comprit pourquoi il avait reconnu Rachel sans vraiment la reconnaître. En près de 2 ans et demi, la petite avait pas mal changé, et ses cheveux blonds, jadis coupés courts, cascadaient sur ses épaules. De plus, elle avait grandi d'une bonne tête.
« Adi !»
fit Chase, l'épouse glissée dans sa large ceinture de cuir.
« Connaissant ton sérieux, je suis sûr que c'est Zed qui t'a mise dans la mouise. »
Le vieux sorcier jeta un coup d'œil à son amie. Il vit qu'elle souriait de toutes ses dents. Depuis combien de temps ne l'avait-il plus vue si heureuse?
Tu le connais, Chase,
dit la dame des ossements.
Il attire les ennuis comme un aimant le fer.
Zed n'avait plus vu le garde frontière depuis 2 ans et demi. Mais c'était un très vieil ami, et grâce à lui, Richard avait pu rencontrer Adi et découvrir un moyen de traverser la frontière quelque temps avant qu'elle disparaisse. Chase était un peu plus vieux que Richard. En terre d'Ouest, c'était sans nul doute son meilleur ami.
Un autre garde-frontière, Friedrich, est venu me voir en terre d'Ouest, expliqua Chase. Il m'a raconté que le seigneur Rall avait envoyé à la forteresse avertir de je ne sais quel danger. Quand il a vu qu'Adi et toi n'étiez pas là et que le complexe grouillait d'envahisseurs, il a eu la bonne idée de venir me demander de l'aide. Les gardes-frontières de tous les pays sont solidaires. Rachel et moi avons décidé de venir sauver ta vieille peau, mon cher Zed. »
Le sorcier jeta un coup d'œil inquiet à la très pâle lumière qui filtrait du rabat.
« Vous devez partir d'ici. Il faut filer avant le coucher du soleil, sinon vous mourrez. Allez, fichez le camp tant que c'est encore possible. »«
Zed, » dit Chase, « je n'ai pas fait tout ce chemin pour repartir sans toi. »
« Mais tu ne comprends pas !»
Une lame fendit soudain la toile sur le côté de la tente et ménagea une ouverture assez haute et large pour qu'un homme, en forçant un peu, puisse rejoindre Zed et ses compagnons. Ébahi, le vieux sorcier dévisagea ce nouveau garde d'élite qui lui rappelait aussi quelqu'un.
« Non, Chase !»
cria Zed quand il vit le garde frontière porter la main à la hache de guerre accrochée à sa ceinture.
« Pas un geste !»
ordonna l'homme qui venait d'entrer.
« Il y a là-dehors un ami à moi qui t'embrochera sans sourciller si tu tentes de faire le malin. »«
Capitaine Zimmer ?»
fit Zed dépassé.
« En chair et en os, oui. Et je suis là pour vous sauver. »«
Mais vous êtes brun ?»«
De la suie, tout bêtement.
Dans le camp de Jagang, les blonds ne sont pas très bien vus.
Vous devez tous partir avant le coucher du soleil,
répéta Zed.
Fichez le camp, bon sang.
Combien d'hommes avez-vous? Demanda Chase au capitaine.
Une poignée. Mais qui es-tu, l'ami?
Un vieil ami, justement,
répondit Zed à la place du garde-frontière.
À présent, écoutez, il...
Des cris venant de l'extérieur interrompirent le vieil homme. Zimmer se précipita vers le rabat de la tente. Un homme passa la tête à l'intérieur et répondit avant que son chef ait eu le temps de l'interroger.
« Ce n'est pas nous, capitaine !»
Dans le lointain, Zed entendit des voix crier.
« Assassin ! Assassin !»
Le capitaine Zimmer se plaça derrière le sorcier et lui délia les mains, puis il s'occupa de libérer Adi.
« Il faut saisir notre chance !»
dit Rachel.
« Profitons de la confusion pour partir d'ici !»«
Le cerveau de notre groupe !» dit Chase avec un sourire.
Zed se laissa tomber à genoux et prit la petite fille dans ses bras. Aucun mot ne parvint à sortir de ses lèvres, mais ce n'était pas un problème. Sentir les petits bras de Rachel autour de son cou suffisait à combler le vieil homme de bonheur.
« Tu m'as beaucoup manqué, Zed !»
souffla Rachel. Hors de la tente, c'était le chaos. Des officiers criaient des ordres, leurs soldats couraient en tous sens et des cliquetis d'acier retentissaient dans le lointain. Tahira entra soudain sous la tente. Voyant que Zed était libre, elle lui envoya une décharge de pouvoir par l'intermédiaire du Radahan. Le vieil homme en tomba à la renverse. Une deuxième sœur, plus jeune, entra juste derrière Tahira, qui se retourna surprise. Mais sa collègue la frappa si fort qu'elle manqua de s'écrouler comme Zed. Réagissant à une vitesse folle, la sœur de l'obscurité lança un éclair qui illumina violemment l'intérieur de la tente. Au lieu de pulvériser son adversaire, comme Zed le redoutait, l'attaque de Tahira se retourna contre elle et elle tomba comme une masse.
« Je t'ai eu !»
triompha l'autre sœur, blonde comme les blés, en posant un pied sur la gorge de Tahira.
« Rika ?»
s'étonna le vieux sorcier. Agiel au poing, la mort de Sid s'était déjà tournée vers Chase.
« Rika ?»
lança Zimmer à l'autre bout de la tente. Il semblait souffler de voir la mort de Sid ici, surtout déguisée en sœur avec ses longs cheveux blonds défaits.
« Zimmer, que fichez-vous ici ?»«
Et vous ?»
répliqua le capitaine.
« D'abord, c'est quoi cette tenue ?»«
La robe d'une sœur, »
répondit Rika avec un sourire mauvais.
« Quelle sœur ?»
demanda Zed.
Une égoïste qui ne voulait pas me prêter sa tenue, elle aura laissé sa tête dans l'affaire.
Rika désigna l'anneau passé à sa lèvre inférieure.
Je lui ai emprunté ça aussi, mais je l'ai coupé pour ne pas être obligée de me percer la lèvre, comme ça je ressemble vraiment à une sœur.
Rika se pencha, prit Tahira par les cheveux et la força à se relever.
Enlève son collier à Adi.
Je ne ferai pas.
Rika plaqua son agiel sous le menton de la sœur. Du sang perla de la lèvre inférieure de Tahira, qui cria de douleur.
« J'ai dit, enlève-lui ce collier, et ne t'avise plus jamais de me contrarier. »
La sœur tituba jusqu'à la dame des ossements et exécuta l'ordre de la mort de Sith. Les poings sur les hanches, Chase regarda Zed, qui ne s'était toujours pas relevé.
« Que vas-tu faire maintenant? Tirer à la courte paille pour savoir qui aura le droit de te sauver ?»«
Fiche très foutre! Vous êtes tous sourds ou quoi? Vous devez filer d'ici !»
Rachel brandit un index accusateur sous le nez du vieil homme.
« Zed, tu sais qu'on ne doit pas dire de gros mots devant les enfants !»
Accablé, le sorcier fit de grands yeux à Chase.
« Je sais !» soupira le garde-frontière. « Elle ne cesse de m'admonester !»«
Le soleil se couchera bientôt !»
rugit le vieux sorcier.
« Il serait préférable d'attendre qu'il ait disparu, » dit Zimmer. « Dans l'obscurité, il sera plus facile de sortir du camp. »
Un bourdonnement retentit, l'air vibra, et il y eut un claquement métallique. Enfin débarrassé de son collier, Adi soupira de soulagement.
« Quelqu'un m'écoute !»
explosa Zed en se relevant.
« J'ai activé un sort de coucher de soleil. »«
Un quoi ?»
s'étonna Chase.
« Un sort de coucher de soleil. C'est un artefact protecteur qui vient de la forteresse. Une variante du champ de force. Quand il sent que d'autres champs de force ont été violés et que des objets de valeur manquent, il parvient à s'introduire dans le butin. Lorsqu'un voleur l'ouvre, car le sort a la forme d'une boîte, il s'active dès que le soleil se couche et détruit tous les trésors volés. Là, c'est moi qui ai déclenché le sortilège, pas un pillard, mais le résultat sera le même.
« Vieux fou !» rugit Taïra.
« Nous devrions peut-être y aller, » dit Rika en prenant le vieux sorcier par le bras.
« Une minute !»
lança Chaise en saisissant l'autre bras du vieil homme. Zed dégagea ses deux membres supérieurs et désigna la lumière mourante à travers la fente ménagée par Zimmer.
« Il nous reste peu de temps avant que cet endroit se transforme en une boule de feu !»«
Une boule de quelle taille ?»
demanda Zimmer.
« Il y aura des milliers de victimes. Le sort ne détruira pas le camp, très loin de là, mais toute cette zone sera carbonisée. »
Tout le monde se mit à parler en même temps.
« Silence !»
cria Chase.
« Écoutez-moi. Si nous nous comportons comme des fugitifs, nous serons pris.
Capitaine, tes hommes et toi m'accompagnerez. Nous ferons comme si Zed, Adi et Rachel étaient nos prisonniers. Je suis arrivé ici grâce à cette ruse parce que j'ai découvert qu'il y avait des enfants otages. Rika et la vraie sœur renforceront notre crédibilité.
Zed, voulez-vous être débarrassé du collier avant notre départ ?
Demanda la mort de Sith.
Non, nous n'avons pas le temps. Allons-y.
Pas question,
fit Adi en prenant le bras du vieil homme.
Pardon ?
Écoute-moi. Il y a des familles entières sous les tentes. « Si nous ne faisons rien, tous ces gens mourront. Va à la forteresse. Moi, je me chargerai de sauver les innocents. »
Zed détesta d'emblée cette idée. Mais seul un fou aurait tenté de discuter avec Adi quand elle avait décidé quelque chose.
« Séparons-nous dans ce cas, » proposa Zimmer. « Mes hommes et moi jouerons le rôle des gardes et nous conduirons Adi et ses protégés hors du camp. »«
D'accord, »
fit Rika.
« Dites à Verna que je pars avec Zed pour l'aider à reconquérir la forteresse. Il aura besoin d'une mort de Sith pour protéger ses arrières. »
Un court silence suivit. Personne n'ayant émis d'objection, l'affaire semblait réglée.
« On y va !»
cria Zed. Il enlaça Adi et l'embrassa sur la joue.
« Sois prudente. Assure Verna que je reprendrai la forteresse et aide-la à défendre l'école. »
« Sois prudent aussi, vieux fou, et écoute, Chaise. Pour être venu de si loin à ton secours, ce doit être un très gentil garçon. »
Zed sourit, puis poussa un petit cri quand le garde frontière le tira par le dos de sa tunique, l'entraînant vers la sortie.
« Le soleil se couche, fichons le camp. N'oublie pas, tu es mon prisonnier. »«
Je connais le rôle par cœur. »
marmonna Zed tandis que Chaise le tirait dehors comme un vulgaire sac de patates. Il sourit à Adi qui se précipitait déjà vers sa mission.
« Un moment »
cria-t-il. S'arrêtant près d'un chariot, il y récupéra un objet qu'il ne voulait pas laisser détruire.
« C'est bon, on file !»
Le camp était sans dessus-dessous. Armes au poing, des gardes d'élite se précipitaient vers les tentes de commandement. D'autres hommes allaient renforcer le cordon de sécurité. Partout, des cors et des trompettes sonnaient l'alarme. Zed eut soudain très peur que son petit groupe soit intercepté et interrogé. Mais Chaise prit intelligemment les devants.
« Qu'est-ce que tu fiches ? »
beugla-t-il en saisissant par le bras un soldat affolé.
« Aide-moi à protéger ces prisonniers. Si nous les perdons, l'empereur nous fera écarteler vifs. »
L'homme rassembla une dizaine de soldats qui escortèrent Chaise, Rika, Taïra, Rachel et Zed. La fille adoptive du garde-frontière jouait à merveille les gamines terrifiées. Histoire de renforcer ses effets, Chaise la secouait de temps en temps et lui criait de la fermer. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Zed vit que le soleil commençait de sombrer à l'horizon.
« Plus vite !»
lança-t-il à Rika. Franchir le cordon de sécurité fut moins compliqué que prévu. Résolu à ne laisser entrer personne, les soldats ne s'attendaient pas que des soldats de leur camp et des prisonniers essaient de sortir. Un homme décida quand même d'interroger l'étrange petite colonne.
« Écarte-toi, imbécile !» cria Chaise. « Ordre de l'empereur !»
L'homme obéit, et le cordon de sécurité derrière lui se scinda brièvement en deux pour céder le passage au petit groupe. En quelques minutes, les fugitifs furent loin du cœur du camp. Alors que tout semblait se dérouler à merveille, une bande de soldats tenta de leur barrer le chemin. Ces soudards avaient simplement repéré Rika et Taïra, et ils espéraient profiter du chaos ambiant pour s'offrir un peu de bon temps. Leur chef, un type affreux à demi édenté, se campa devant ses hommes et leva une main.
« Minute, les amis. Je crois que les dames ont envie de rester ici avec nous. »
Sans s'arrêter, Rachel récupéra un couteau sous sa robe et, sans même regarder en arrière, le lança par-dessus son épaule. Sans s'arrêter non plus, Chase rattrapa l'arme au vol par la pointe, puis la propulsa sur l'enquiquineur édenté. La lame s'enfonça entre les deux yeux de l'homme qui tomba raide mort. Rachel lança un deuxième couteau à Chase, qui réédita son exploit sur un autre soldat. Échaudés par le sort de leur compagnon, les autres violeurs potentiels se préparèrent au combat. Dans le camp de l'ordre, les rixes pour du butin, du vin ou des femmes n'étaient pas rares, et les authentiques soldats qui accompagnaient les fugitifs ne s'étonnèrent pas de la tournure des événements. Mais l'affaire allait être chaude, ça semblait évident.
« À terre !»
cria Zed après avoir jeté un regard derrière lui.
« Tous à plat ventre !»
Rika, Chase, Rachel et le sorcier lui-même se jetèrent dans la poussière. Autour d'eux, les agresseurs et les hommes de l'escorte se pétrifièrent. Armes au poing, ils regardèrent autour d'eux à la recherche d'une explication.
« Au secours, ces gens sont des... »
commença de crier Taïra. Une lumière blanche déchira soudain les ténèbres. Quelques secondes plus tard, le souffle d'une explosion fit trembler le sol. Propulsé par une force invisible, un mur de débris passa au-dessus des têtes de Zed et de ses compagnons. Les soldats qui étaient restés debout s'envolèrent comme des pantins désarticulés. Décapités par des débris volants, certains étaient morts avant d'avoir compris ce qui se passait. Taïra s'était tournée vers la source de l'explosion. Une roue de chariot, volant à une vitesse incroyable, la percuta, la coupa en deux et continua son chemin comme si de rien n'était. Les restes de la sœur vinrent rejoindre sur le sol ceux de dizaines d'hommes. Quand le rugissement de l'explosion eut un peu faibli, des cris de douleur retentirent un peu partout. Il devait y avoir des centaines de soldats atrocement mutilés. Zed espéra qu'Adi n'avait pas traîné dans les parages. Saisissant le sorcier par l'épaule, Chase le força à se relever. Rachel, sous l'autre bras, le garde-frontière détala comme un lapin. Rika vint se placer entre Zed et son colosse de sauveur. Très secouée, Rachel enfouit la tête dans le cou de son père adoptif. Zed ouvrit la bouche pour demander à Chase pourquoi il avait enseigné le truc des couteaux à une petite fille, mais il se ravisa, car c'était lui, 2 ans et demi plus tôt, qui avait demandé au garde-frontière d'apprendre tout ce qu'il savait à la fillette. Rachel était une personne très spéciale. Elle devait être préparée à tout ce que la vie gardait en réserve pour elle.
« Vous auriez dû accepter que la sœur vous retire le collier, » dit Rika. « Maintenant, c'est trop tard. »«
Si nous avions pris le temps de me faire libérer, » répondit Zed, « nous ne serions plus là pour en parler. »«
Probablement, »
dut concéder la mort de Sith. Les 4 fugitifs ralentirent un peu pour reprendre leur souffle. Dans le chaos ambiant, personne ne s'avisa qu'ils tentaient de sortir du camp. Tout en marchant, Zed passa un bras autour de l'épaule de Rika et la serra contre lui.
« Merci d'être venu à mon secours. »
La mort de Sith eut un grand sourire.
« Je ne vous aurais pas laissé entre les mains de ce chien après ce que vous avez fait pour nous. En plus, le seigneur Ral a Kara pour protectrice et il serait ravi qu'une mort de Sith veille sur son grand-père. »
Zed ne se trompait pas. Le monde était cul par-dessus tête. Voilà que les morts de Sith devenaient des anges tutélaires.
« J'ai caché des chevaux et des vivres pas loin d'ici, » annonça Chase. « Mais il faudrait nous procurer une monture pour Rika. »
Toujours blottie dans les bras de son père adoptif, Rachel sourit au sorcier.
Chase est mécontent parce qu'il a dû laisser toutes ses armes en arrière. Il n'aime pas se promener sans rien sur lui. »
Zed regarda la hache accrochée à une hanche du garde-frontière, puis l'épée qui faisait le pendant de l'autre côté et les deux couteaux glissaient dans son ceinturon.
« Je peux comprendre qu'un homme digne de ce nom déteste être aussi peu armé, »
concéda ironiquement le vieux sorcier.
« Je n'aime pas cet endroit, »
souffla Rachel à l'oreille de Chase.
« Nous serons bientôt dans la forêt, ma chérie, »
répondit le colosse en tapotant le dos de l'enfant.
Au cœur même de la boucherie, cette manifestation de tendresse émusait d'aux larmes.